Bonjour, je m'appelle Jean Rottner et j'ai eu plusieurs vies. Après ma période des apprentissages, je suis devenu médecin, patron d'un service d'urgence et d'un SAMU. J'étais maire et président de région. Aujourd'hui, je poursuis ma quatrième vie dans le privé en m'offrant une autre manière de vivre. À travers ce podcast, j'ai simplement souhaité vous amener à être curieux, parfois troublé, à l'écoute de celles et ceux qui, célèbres ou non, vivent intensément leur engagement au milieu de nous tous. Je suis persuadé qu'il y a une différence entre croiser quelqu'un et le rencontrer. La rencontre est vitale. Et celles et ceux que j'ai vraiment rencontrés étaient rares, précieux. Ils m'ont marqué, inspiré, ouvert au monde et j'ai donc décidé de vous les faire découvrir. L'important est donc là, parmi ces vraies rencontres, soyez les bienvenus.
Jean Rottner, les vraies rencontres, l'essentiel est là.
Avant de débuter ce deuxième épisode des vraies rencontres, j'aimerais remercier toutes celles et ceux qui m'ont adressé des mots d'encouragement à la suite du premier entretien avec Stéphane Manigold. Merci également à l'agence de communication Mars Rouge qui assure le back-office de mon site internet jeanrottner.com.
Jean Rottner, les vraies rencontres.
Quand on débute un entretien, on ne sait pas toujours où il va vous emmener. En invitant Gwenaëlle Avissuette, je souhaitais vous faire découvrir une personnalité exceptionnelle. Vous n'allez pas être déçu. Elle a toutes les qualités pour incarner la relève à la tête des plus grands groupes internationaux ou du CAC 40. Elle est aussi brillante qu'une nuit d'étoiles. Son esprit est aussi rapide qu'un avion de chasse. Elle est pétillante, illustre une joie de vivre permanente et fait preuve d'une intelligence hors norme. Infatigable, c'est une vraie bosseuse, adorée par ses équipes et dotée d'une volonté de fer. J'ai fait sa connaissance lors des entretiens de Royaumont où nous intervenions tous deux avec Bertrand Piccard dans une table ronde sur le thème de la méritocratie. J'avais été frappé par sa simplicité, son écoute et sa capacité à incarner le monde de demain. Oui, pour moi, cela avait été une vraie rencontre. Au moment de cet entretien, Gwenaëlle était directrice générale stratégie et développement durable du groupe Schneider. Aujourd'hui, elle assume la direction générale des opérations en Europe pour le même groupe. Elle est administratrice indépendante d'Air France KLM. Elle a été directrice adjointe d'Engie. Elle sort de l'école normale supérieure de Cachan. Elle est agrégée de physique-chimie. Je vous invite aujourd'hui à découvrir une personnalité attachante, une personnalité brillante. C'est une vraie rencontre que je vous offre. Soyez les bienvenus.
Jean Rottner, les vraies rencontres.
Bonjour Gwenaëlle.
Bonjour Jean.
Comment vas-tu ?
Très bien, ravie d'être avec toi.
Ben moi aussi, ça me fait vraiment plaisir de te revoir après ces entretiens de Royaumont. On avait passé un très beau moment, on y reviendra d'ailleurs. Et j'ai une première question directe pour toi. Qu'est-ce que le beau ?
Je dirais le beau, c'est quelque chose qui doit nous embarquer dans une dimension un petit peu qui fait rêver. Et finalement, le beau, on peut le retrouver dans toutes les petites choses. Il ne faut pas penser que ce n'est uniquement une question réservée à quelques personnes ou à quelques thèmes ou quelques œuvres. Mais finalement, la beauté, elle se voit dans toutes choses. Il est juste de notre sort de regarder avec un œil aiguisé.
Quel est ton grand rêve ?
Mon grand rêve, je dirais, c'est tout simple. C'est de vivre avec mes enfants en pleine plénitude, d'être entourée de l'amour de ma famille, de mes amis proches. Et puis, je suis violoniste et artiste. Voilà. Donc, pour moi, la musique m'englobe et m'aide à avancer dans la vie. Et je dirais, mon rêve, c'est juste ça. C'est de vivre cette vie simple et en même temps une vie qui peut donner envie à d'autres. Quand j'étais jeune, en fait, j'avais pas vraiment de destin, j'avais pas vraiment de finalité en soi. Et finalement, on la trouve nous, tout seul. Et bien moi, mon destin, c'est peut-être aussi d'aider les autres, en tout cas les femmes aussi, à trouver leur chemin, parfois des chemins très simples, comme juste être en famille, juste trouver d'agréables moments en famille, et puis parfois des chemins un peu plus tortueux, pour arriver à trouver de quoi on est fait et de quoi on aspire dans la vie.
Corinne Cauchois, qui est une de tes bonnes amies, qui est directrice de la com aussi chez Schneider, me disait, elle est tellement douée que tout ce qu'elle fait, elle le transforme en or. Tu parlais du violon à l'instant, tu aurais pu rentrer au conservatoire, tu faisais de la danse aussi, je crois, tu aurais pu rentrer à l'opéra, et finalement, tu choisis de faire Cachan. Pourquoi, quand on baigne, parce que c'est ce que j'ai compris là aussi de nos entretiens, de nos échanges, on baigne dans une famille avec une maman violoniste, ton choix finalement t'orienter vers cette carrière d'ingénieur, comment est-ce que tu peux l'expliquer ?
Ce qui me plaît beaucoup dans la vie, c'est la complémentarité de tous les aspects pétillants qu'on peut voir au quotidien. À la fois de la science, à la fois des choses simples, comme je le disais par ailleurs, comme un son de musique, comme une œuvre d'art. Ben en fait, c'est mon regard que je porte sur la vie qui est, on va dire, très simple et en même temps très émerveillé par toutes ces petites choses. Et donc, ma vie, elle a été portée par ça. Très jeune, j'ai fait effectivement beaucoup de violon, du piano. J'ai fait beaucoup de danse au conservatoire. Et bah, j'étais aussi passionnée des sciences parce que la science, c'est quelque chose qui nous aide à comprendre le passé, mais aussi à préparer l'avenir. Et finalement, j'ai jamais pensé que c'était un choix. J'ai toujours pensé qu'il suffisait de s'écouter et puis de vivre ces triples vies en même temps. Et donc, j'ai avancé dans le domaine scientifique. J'ai fait de la recherche à l'École normale supérieure. Puis, je suis allée vers, des écoles plus d'ingénieurs. Et dans le même temps, j'ai jamais renoncé au côté artistique qui m'habite, à la fois à travers le violon, mais aussi à travers la danse ou l'expression de moi-même. Et je pense que c'est comme ça que j'arrive à me définir, par cette complémentarité qui est à la fin, au fond de moi-même. Et c'est ce qui me définit.
Quelques mots aussi que j'ai entendus sur toi, j'ai beaucoup lu, j'ai regardé un certain nombre de tes interviews. Tu parais à la fois simple, et tu viens de nous le démontrer dans ce que tu viens de nous dire, mais tu es déterminée. Tu es conquérante, tu es hyper rapide, tu as un sens aigu aussi des autres, tu es entière. Quel est le terme dans tout ce que je viens de dire qui te définirait le mieux ?
En fait, chacun des termes pris indépendamment ne dépeint qu'une petite partie de moi-même. Être conquérante, oui, bien sûr, mais être conquérante sans faire attention aux autres ou sans prendre le soin d'embarquer autour de moi ou sans prendre le soin d'accompagner le mouvement pour faire en sorte que ce soit pas uniquement mon combat, mais un combat collectif, parce que c'est ce qui fait du sens, c'est ce qui donne du sens. En fait, c'est un mot qui est trop fade. Pour moi, le mot doit s'accompagner d'une histoire, ou en tout cas d'un sens qu'on lui donne. Mais chacun des mots pris indépendamment dépeint une petite partie de moi-même.
Gérard Mestrallet, qui est l'ancien PDG d'Engie, que tu connais très bien. Il a été PDG d'Engie, je crois, de 2008 à 2018, en termes de responsabilité, en tout cas, président jusqu'en 2018, te décrit de manière forte. Quand je l'ai eu au téléphone, il me dit « c'est une personnalité unique, elle est exceptionnelle ». La première fois que je l'ai vue, c'était, je crois, au ministère, j'ai senti en elle une tension intérieure positive, très forte, dans son attitude, son regard, qui contrastait avec la douceur de son sourire. Elle m'avait tapé dans l'œil. C'est un bel hommage, non ?
C'est un bel hommage, vous avez raison.
Mais entre joyeuse, généreuse, bienveillante, toujours en bonne humeur, il n'y a jamais de jour de colère, de jour de révolte, de jour où on en a marre, de jour où finalement le sourire, on ne l'a pas au bout des lèvres.
Bien sûr, on a tous des moments plus difficiles dans la vie, ne serait-ce que parce que l'un de nos proches, par exemple, peut être affecté par quelque chose. Bien sûr, ça nous touche. Mais moi, je me lève le matin en me disant « j'ai de la chance d'être là », première chose, parce que la vie, elle est faite de ce qu'on en fait. C'est à nous de décider notre chemin, c'est à nous de l'organiser, c'est à nous de finalement donner libre cours à nos aspirations et puis de les réaliser si on le souhaite. Donc chaque matin, j'ai le bonheur de me lever, j'ai le bonheur d'avancer et de construire autour de moi parce que je pense que c'est ce qui me définit, effectivement. Alors ça ne veut pas dire que j'ai pas des moments difficiles, au contraire, j'en ai aussi. Mais c'est à moi de les gérer. C'est pas ma philosophie de le partager ou en tout cas de le disséminer autour de moi. Au contraire, c'est plutôt donner de l'encouragement, donner de un peu d'étincelle dans les yeux à tous les gens avec lesquels je travaille ou avec lesquels j'échange.
Et ça vient quoi d'un environnement familial dans lequel tu as appris ça quand tu étais enfant? Tu as baigné dans cette ambiance-là? Tu le construis aujourd'hui dans ta vie personnelle, là aussi familiale? Comment est-ce que tu t'appuies sur ce qui t'a fait dans ta partie la plus simple aujourd'hui de femme?
Je dirais, c'est pas qu'une question d'éducation. De mon côté, j'ai toujours beaucoup travaillé, même étant très jeune, en faisant des activités très complémentaires, comme on le disait, mais au plus haut niveau, au conservatoire, on va dire très rigoureux. Et puis un jour dans ma vie, j'ai eu un accident de voiture où j'ai failli tout perdre, la vie, mais aussi mes jambes. Donc très affectant. Et dans ces moments-là, en fait, on porte un regard nouveau sur ce qu'on est et sur ce qu'on veut être. Et depuis lors, je me suis dit, chaque jour de la vie, je le vivrai comme le dernier. Non pas que je vais précipiter des décisions ou que je vais raisonner à court terme, mais je veux finalement aspirer le souffle de la vie à chaque moment où j'ai l'opportunité de le faire. C'est véritablement comme ça que je vois la vie depuis cet accident. Et c'est ce qui me porte, c'est ce qui fait que, effectivement, dans les moments difficiles, il faut regarder le côté positif, il faut voir comment est-ce qu'on arrive à les dépasser, il faut s'encourager. Parce que c'est une chance et que demain, c'est pas effectivement de quoi la vie sera faite. Alors, avançons ensemble.
Tu n'as peur de rien, c'est ce qu'on dit toi aussi. Gérard Mestrallet me dit, je comprends pas, il n'était pas très sûr. Gérard Mestrallet, l'ancien PDG d'Engie, il dit, elle fait de la haute montagne, rendez-vous compte. Elle fait du marathon, je ne comprends pas. Elle fait même du parapente. C'est vrai, ça?
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais...
C'est quoi? C'est une revanche sur la vie? C'est une revanche sur la vie? C'est une envie de se dépasser? C'est une envie de d'apporter des preuves qu'on ne t'attend pas là où tu te trouves?
Pas nécessairement. Je ne veux pas prouver quoi que ce soit. Par contre, j'aime la nature, par exemple. Le parapente, la haute montagne, on découvre des paysages absolument fantastiques. Oui, c'est difficile. Oui, c'est un effort de soi, mais on apprend aussi sur soi quand on est dans l'effort. Et moi, j'aime aussi ces moments-là où j'apprends sur moi, j'apprends mes limites, j'apprends comment vaincre les difficultés. Quand on part en haute montagne et c'est ce que j'ai fait au mois de juin avec des collègues, on part à plus de 4000 mètres d'altitude, on ne sait pas comment le corps réagit. Comment est-ce qu'on fait pour réagir dans des environnements assez extrêmes? Eh bien, c'est aussi comme ça qu'on apprend de soi. Et c'est aussi comme ça qu'on est plus fort demain. Pas dans les mêmes conditions, mais on est tellement rassuré sur notre capacité à dépasser des moments, on va dire, plus obscurs qu'on arrive à les franchir. Donc non, j'ai pas nécessairement envie de prouver quoi que ce soit, mais j'apprends de moi-même. Et puis ces moments-là, on va dire, c'est des moments aussi où je souhaite partager avec d'autres. Ce que j'ai fait en haute montagne, ce que j'ai fait en parapente, c'était aussi pour partager avec les autres ce qu'on ne voit pas. Quand on voit que la mer de glace, en fait, elle disparaît, il faut le montrer, il faut le communiquer, il faut faire prendre conscience. J'étais très contente de monter en haut du Mont Blanc du Tacu et puis faire ce décollage en parapente, tout filmer et tout expliquer pour juste montrer à quel point le monde est en train de changer et que c'est pas qu'une affaire de personnes, c'est une affaire de volonté et de vouloir aller pour changer le monde.
Alors la montagne, c'est un milieu qui peut être hostile. Les affaires, le business, le monde dans l'entreprise, ça peut être aussi hostile. Et on dit de toi qu'il n'y a pas un problème, tu ne trouves pas une solution. C'est aussi la capacité finalement dans ces milieux hostiles de se dire, s'il y a une difficulté, je vais réfléchir, je vais apprendre et ça va m'apporter quelque chose dans ma vie professionnelle.
Je dirais pas que j'ai une solution à tous les problèmes, mais je sais m'entourer avec des personnes qui auront toujours des idées, des convictions. Et je m'appuie sur ces personnes pour me forger ma propre conviction. Et je pense que seul on n'est rien, mais en équipe on fait toute la différence. Et c'est pour ça que pour moi le plus important c'est de créer l'équipe, c'est d'écouter les gens, c'est d'arriver à m'appuyer sur eux pour collectivement apporter des solutions. Mais non, je ne connais pas tout et j'ai pas la prétention de le faire.
La transition est toute faite sur ton style de management, dirigeante d'entreprise. On a dit que tu étais très rapide, moi j'étais... Je suis toujours scotché parce que quand je t'envoie un message, tu réponds dans les 15 secondes. Et quand tu es ton activité, je ne sais pas comment tu fais. En tout cas, oui, on te dit rapide, exigeante. Pour ceux qui t'entourent, c'est visiblement pas toujours évident parce que tu es rapide et exigeante. Et donc, ça veut dire qu'il faut du dévouement, il faut un engagement derrière son capitaine ou sa capitaine. Et tu as une recherche continuelle de l'excellence. Et en même temps, tu domines tous les sujets parce que tu veux tout savoir et tout connaître. Comment tu te définis, toi, à partir de ces mots-là, mais à partir de ce que tu essaies, finalement, d'inculquer dans ton équipe, c'est quoi le bon management pour toi?
Je dirais pas que tout savoir et tout connaître est un bon style de management. En tout cas, ce n'est pas nécessairement le mien. Mais c'est bien s'entourer et écouter et partager et donner la ligne, donner la direction. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Non, je ne peux pas tout connaître et j'ai besoin des autres pour m'apporter. Et c'est ça la force en fait d'un rôle de management, c'est pouvoir finalement s'entourer des bonnes personnes et à partir de là, bah, créer des liens entre toutes ces personnes et trouver des solutions. Définir finalement quelle est la ligne, quelle est la stratégie, comment avancer, comment se dépasser. Mais c'est pas de tout connaître. Justement, c'est toute la différence. Et donc, mon rôle, mon style de management, c'est plutôt de déléguer. C'est plutôt de donner la responsabilité à mes équipes et puis les laisser s'exprimer, les laisser se développer. Et puis, à moi de les accompagner pour aller essayer d'aller dans des directions parfois inexplorées de leur côté. Mon rôle, c'est aussi de les développer. C'est sûr que dans une entreprise, on fait des rencontres humaines avant tout. Et si ces rencontres humaines permettent pour elles de découvrir des nouveaux horizons pour leur environnement professionnel, bah, c'est encore mieux. En particulier vis-à-vis des femmes, parce que souvent, les femmes peuvent être un peu plus en retrait, en ne s'écoutant pas nécessairement. Et si je peux jouer un rôle modèle pour d'autres femmes d'aller dans cette direction, d'aller dans des métiers techniques, des métiers d'ingénierie, donner du sens autour de ça, eh ben, je suis toujours volontaire pour le faire.
De manière très concrète, justement, on sait que dans le numérique, on sait que dans le technique, on sait que dans les métiers d'ingénieur, on manque de femmes. Tes idées très concrètes ou ta réalisation pour favoriser justement l'arrivée des femmes dans ce milieu-là, lesquelles sont-elles ?
J'irais plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'au niveau de Schneider, on est très engagé sur la place des femmes et sur comment les attirer dans ces domaines-là. C'est travailler directement avec les écoles. Dans les écoles, c'est promouvoir auprès des jeunes femmes d'aller dans ces métiers-là. Je reviens du Brésil il y a quelques semaines où, en fait, on a développé des partenariats avec des écoles sur l'intelligence artificielle, sur l'électricité, dédiées aux femmes, en fait, aux jeunes filles. Et ça, c'est très important parce qu'elles vont parler, elles vont communiquer, elles vont trouver un job à la fin et pouvoir donner le mot d'ordre, en tout cas l'idée à d'autres jeunes femmes d'aller dans la même direction. Donc je dirais, c'est pas uniquement en parler, c'est important d'en parler pour faire réaliser que parfois il y a des plafonds de verre, qu'il faut les dépasser et que finalement il n'y a pas une certaine catégorie de postes réservée à des femmes ou à des hommes, mais que tout est accessible, c'est une question de volonté. Au-delà de ça, c'est aussi parler chiffres, c'est montrer développer des écoles, montrer des cursus et puis à la fin avoir des diplômées femmes qui vont porter la bonne voie à travers leur futur emploi. Et puis la deuxième chose que je fais de manière très pratique, c'est mentorer des jeunes filles. Parfois, je rencontre des jeunes filles qui veulent aller dans ces métiers-là, qui n'ont pas nécessairement confiance, qui savent pas finalement comment on va dire évoluer dans un milieu très masculin, naviguer, est-ce qu'elles peuvent écouter leurs aspirations de grandir dans des groupes beaucoup plus techniques. Bah, mon rôle, c'est aussi de leur donner confiance, de les faire s'exprimer, et puis progressivement de s'écouter pour qu'elles aient un rôle à jouer dans ces métiers-là aussi.
On dit que tu t'émerveilles de tout. Cet émerveillement, est-ce que tu es en capacité, là aussi, comme chef d'équipe, comme leader, de le transmettre à tes équipes ? Comment est-ce que tu le fais ?
Ce que j'essaie de faire déjà, c'est de partager mon enthousiasme quand on a un projet en commun vis-à-vis de mon équipe, c'est-à-dire on a une ligne, eh bien on va la défendre ensemble, je donne du sens au projet. Et puis c'est la manière de le communiquer avec tout l'enthousiasme que moi je peux donner à ce projet. C'est vrai, le développement durable, par exemple, ce dont je m'occupe aujourd'hui chez Schneider, bah, c'est un projet particulièrement enthousiasmant. On peut le voir d'un point de vue purement réglementaire, qui est un petit peu plus barbant, ou on peut le voir d'une manière beaucoup plus aspirationnelle. Et c'est comme ça que moi je le vois, de redonner du sens pour faire en sorte que, à travers ce simple mot, en fait, se cachent plein de choses qui nous touchent personnellement, au-delà de ce que la simple réglementation pourrait demander. Voilà, c'est comme ça que j'arrive à, on va dire, communiquer mon énergie, communiquer mon enthousiasme sur ce que je fais à travers mes équipes.
Dans des vies d'équipe, il y a des moments plus difficiles, il peut y avoir des échecs, et Corinne Cauchois, la DIRCOM avec laquelle tu travailles, dit de toi, elle a l'intelligence des grands et sait se remettre en question.
J'irais, bien sûr qu'il y a des échecs. D'ailleurs, une vie sans échecs, on n'apprendrait pas nécessairement ce qui est important pour avancer. Donc je dirais, le sujet n'est pas tant l'échec, mais ce qu'on en fait. Et pour moi, ce qui est important, c'est d'accepter l'échec et à partir de là, de se dire, bah, finalement, comment demain on fait mieux. Et je dirais, à la limite, ne pas connaître d'échec, c'est niveler par le bas. On se met plus à risque en ayant des ambitions plus fortes, en essayant de pousser plus loin, quitte à connaître un échec, mais on se met plus en risque et puis on tire par le haut. C'est plutôt ma façon de voir. Et bien sûr, bah, comme je disais, prendre un risque, ça nécessite d'avoir la capacité à se remettre en question pour repositionner finalement l'ambition. Mais c'est toute la beauté des choses. Un chemin tout tracé, finalement, est-ce qu'il est aussi intéressant ? Certes, il est peu semé d'embûches, même si la vie nous en apporte tout le temps, mais il est peut-être moins semé d'embûches, moins risqué. Mais à la fin, finalement, qu'est-ce qu'on a appris ? Est-ce qu'on a vraiment essayé d'aller à une étape supplémentaire par rapport à ce qu'on sait faire ? Pas forcément.
Schneider est une entreprise qui a parié sur la recherche et le développement il y a une quinzaine d'années, qui en touche les fruits aujourd'hui parce qu'elle est largement en avance dans le développement durable. Tu en as, entre autres, la responsabilité à travers le numérique, à travers la data, à travers aujourd'hui l'intelligence artificielle, le quantique. C'est pas simple comme domaine. Comment est-ce que tu arrives à traduire ça auprès de tes équipes et comment tu en as parlé tout à l'heure? Le développement durable qui est parfois simpliste dans le raisonnement de certains, mais tu arrives à être pédagogique face à ce domaine de responsabilité qui le tient.
Ouais, en fait, sur tout sujet, il y a deux façons de voir les choses. Il y a une façon qui est plus, on va dire, réglementaire, c'est-à-dire la façon de l'aborder est plus sous l'angle de la législation. Par exemple, typiquement, le développement durable, il y a une heure, on parlait de ce sujet-là à travers ce qu'on appelle la CSRD. C'est quoi la CSRD ? C'est toute la réglementation qui s'impose à nous pour avoir un reporting environnemental qui soit comparable par rapport aux autres entreprises européennes. Oh là là, ça a l'air très compliqué. Et quand on parle de ça, finalement, on se dit « ça fait pas rêver ». Et notre objectif, en tout cas le mien, c'est de conjuguer à la fois ces choses-là qu'il nous faut faire, parce que c'est nécessaire dans un grand groupe d'avoir toutes les données bien en place, de les organiser bien comme il faut, d'avoir un reporting qui soit exemplaire, mais à partir de là, surtout, en tirer des éléments qui soient beaucoup plus aspirationnels. La CSRD, ça sert à quoi ? Finalement, on va faire un petit reporting, plutôt un gros reporting. Mais derrière ça, on va pouvoir se comparer, on va pouvoir se dire comment est-ce qu'on pousse un peu plus loin les feux sur le développement durable ? Comment est-ce qu'on arrive à mieux communiquer encore sur ce qu'on fait dans le développement durable ? Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'on est toujours au devant de la vague sur le développement durable ? C'est comme ça que je le vois plutôt. Et j'ai l'habitude de dire finalement, nos sujets, c'est comme un marathon, mais il n'y a jamais de ligne d'arrivée. Et c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. Un marathon, mais il n'y a jamais de ligne d'arrivée. On peut toujours se réinventer. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est pas qu'une question de reporting. C'est une question de comment se réinventer pour donner du sens et pour finalement tout le monde soit émerveillé des prochaines étapes qu'on va franchir ensemble.
C'est pas épuisant, de temps en temps, de courir après une ligne d'arrivée qui n'existe jamais?
Ça dépend comment on le définit, en fait. Effectivement, vous avez raison. Un marathon sans ligne d'arrivée, ça peut faire peur. Et en même temps, il y a plein de petites étapes. Il y a le premier kilomètre, il y a le deuxième kilomètre, etc. Et chaque étape, en fait, c'est une petite victoire. Pour avoir fait le marathon de Paris cette année, moi qui ne cours pas, je peux vous dire que chaque kilomètre, c'était des petites étapes pour moi, et finalement, les 42 kilomètres, je les ai faits. De la même manière, le développement durable, c'est plein de petites étapes. Il n'y a peut-être pas de ligne d'arrivée, mais la ligne collective, c'est la ligne, finalement, de l'équipe et la fierté qu'on porte tous ensemble du positionnement d'entreprise. Et Schneider Electric est reconnue comme l'entreprise la plus durable au monde. Alors, on peut déjà être très, très heureux de ce positionnement. Est-ce qu'il faut s'arrêter ? Non, bien sûr que non.
Tu parles du marathon. Ça a été à la fois une épreuve individuelle, tu l'as parfaitement décrit, mais également une épreuve d'équipe, si j'ai bien saisi. C'est une capacité de fédérer, là aussi, autour de toi. Jean-Pascal Tricouard, que j'ai eu au bout du fil, qui est le président de Schneider, m'a dit très justement, elle m'a dit, mais Gwenaël, elle est team player. Il n'y a pas de doute pour moi. Et comment tu accueilles finalement cette déclaration de la part de ton président ? Parce que vous êtes une équipe, il y a un board, il doit y avoir là aussi parfois des envies de progresser, de se replacer, d'avoir des plans de carrière. Toi finalement, ton plan de carrière, c'est quoi ?
Je pense qu'on ne se distingue pas par l'individualisme. On se distingue par la capacité à travailler ensemble et finalement apporter l'intérêt de l'entreprise. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, j'essaie pas nécessairement de me mettre spécialement en avant parce que je pense que finalement, la façon dont on va aider l'entreprise, c'est de penser d'abord à elle. Et pour penser à elle, en fait, on n'est qu'une petite pièce de l'échiquier. Donc, ça nécessite de travailler bien tous ensemble, d'arriver à travailler pour définir la pente la plus adéquate pour tout le monde et puis qui permette d'engager l'entreprise dans une bonne direction. C'est comme ça que je me définis. Et puis tu parlais du marathon. Pourquoi c'est important de mentionner le marathon? Parce qu'on pense que c'est une épreuve individuelle. Moi, j'ai eu plein de collaborateurs de Schneider qui étaient là. C'était un marathon Schneider. Je peux te dire, c'était extrêmement émouvant pour moi d'y participer. Ne serait-ce que pour représenter l'entreprise, pour voir le dévouement des collaborateurs d'être là un dimanche, le temps n'était pas très propice, et pourtant si fier d'encourager les sportifs de Schneider. En fait, c'est aussi ça, c'est de l'épreuve finalement très individuelle, mais en même temps on est porté par le collectif. Bah ça, je le vois dans le sport, comme ça a été fait au marathon, mais aussi dans le travail au sein de Schneider. Bien sûr, individuellement, on a des objectifs, bien sûr, il faut les tenir, bien sûr, il faut aller de l'avant. Mais finalement, nos objectifs, sans travailler en collectif, ça marchera jamais. C'est le collectif qui donne du sens. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire progresser l'entreprise.
Alors dans ta carrière, l'épisode qui est relaté par Gérard Mestrallet, l'ancien PDG d'Engie, en 2020, sur 170 000 collaborateurs d'Engie, tu es la dernière candidate interne à être retenue sur la shortlist qui, éventuellement, te permettait de succéder à Isabelle Cochère. Et tu n'es pas retenue. Ça a été une déception, un échec?
C'est la vie. C'est la vie et je suis très contente d'avoir rejoint Schneider. J'ai travaillé 11 ans chez Engie. C'est une entreprise que j'adore, qui est encore très chère à mon cœur, ne serait-ce que par les collaborateurs que j'ai rencontrés, qui sont devenus pour certains des vrais amis. Mais c'est une entreprise aussi qui fait du développement, qui fait des grands projets. Moi, j'étais en charge des énergies renouvelables. J'étais en charge de l'Amérique du Nord. C'est beaucoup de grands projets. Chez Schneider Electric, nous, ce qu'on fait, c'est de la technologie. C'est complètement différent. C'est plus des projets de même taille, de même envergure, mais c'est inventer les technologies de demain. C'est de la recherche, comme tu le disais. C'est travailler sur les innovations de demain en matière de digital, intelligence artificielle, etc. Et donc là, c'est un nouveau monde qu'il faut complètement créer. Et donc pour moi, quand on veut être engagé dans la transition énergétique, dans le changement climatique, c'est bien d'avoir les deux volets, de connaître comment est-ce qu'on développe des grands projets de territoire, comment on crée ça avec les territoires. Et de l'autre côté, c'est aussi important de connaître la technologie, comment est-ce qu'on investit dans la technologie, comment est-ce qu'on prend des risques pour développer des technologies nouvelles. Et donc, je suis très heureuse d'avoir rejoint Schneider.
Parce que je crois
pas d'amertume.
Parce que je crois qu'une des particularités de Schneider aussi, c'est à la fois un groupe mondial et un groupe très proche, puisqu'il y a 170 unités de production à travers le monde. Et donc, vous avez cette capacité de vous adapter à la fois aux besoins des territoires, qu'ils soient nationaux ou même infranationaux, dans une stratégie mondiale. C'est bien ça?
Exactement. C'est l'entreprise, je pense, la plus mondiale et locale en même temps. Alors, ça peut paraître contradictoire, mais c'est une très grande entreprise, 150 000 collaborateurs à travers le monde, donc très grande entreprise. Et en même temps, les centres de décision sont très locaux. Les forces de vente, les forces de recherche, les forces de industrielles sont extrêmement locales. Et donc ça donne beaucoup de sens sur notre empreinte géographique, puisque finalement les décisions, elles sont prises là où nos clients sont, là où les autorités publiques sont. En période de Covid, finalement, on était déjà bien outillés, puisque les décisions étaient prises localement.
Mais alors comment est-ce que tu fais quand on est membre du comité exécutif comme toi, quand on a une place de direction et d'animation au niveau d'un groupe, comment est-ce qu'on arrive à avoir une action locale? Comment est-ce que finalement l'impulsion que tu donnes au sommet de l'entreprise redescend jusqu'en bas?
C'est la beauté du rôle, effectivement. Non pas que j'ai beaucoup d'employés qui me rapportent à travers cette fonction, mais justement c'est plutôt une fonction à la fois aspirationnelle, mais aussi mobiliser les entités géographiques pour qu'elles-mêmes déclinent l'ambition de l'entreprise. Et quand on dit je suis directrice du développement durable, oui c'est vrai, mais en fait je suis directrice de pas grand chose, parce que à la fin des fins, toute l'organisation est tournée sur le développement durable. Ça veut dire qu'à la fois dans la recherche, on innove sur les technologies qui vont être très propices à l'environnement, qui vont réduire l'impact environnemental. À la fois dans nos sites industriels, on réduit l'impact environnemental. À la fois dans nos forces de vente, on vend des produits qui sont extrêmement vertueux d'un point de vue environnement. Et tout ça, en fait, c'est en dynamique, puisqu'on invente toujours plus de solutions allant dans cette direction. Alors vous voyez, la beauté de la chose, c'est que finalement, je suis chargée d'animer une communauté dont la culture est extrêmement déjà développée en matière de développement durable.
Et est-ce que cette culture-là, au-delà de l'entreprise, comment est-ce qu'un groupe comme Schneider, aujourd'hui, arrive aussi à l'impulser vis-à-vis de vos partenaires industriels? Parce que l'enjeu est vraiment là. C'est finalement cette transformation vers des modes de consommation différentes, c'est cette transformation vers des usages qui doivent profondément changer et peut-être des logiciels dans nos cerveaux, dans nos habitudes, dans notre quotidien qui doivent là aussi profondément muter. Quelle est l'impulsion que tu peux donner, toi, au poste que tu occupes ?
J'irais pour nos clients, aujourd'hui, souvent, ils sont en recherche d'avoir une ambition en matière de développement durable, donc de réduire leur empreinte environnementale. Mais ça paraît simple, en fait, mais c'est très compliqué. Et donc, souvent, les entreprises viennent nous voir en disant par où je commence. Et en fait, notre rôle, ça sera d'aider les entreprises à déjà prendre connaissance de leurs données en matière d'impact environnemental. Combien aujourd'hui j'émets d'émissions de carbone? Ça paraît très simple. En fait, c'est très compliqué. Surtout pour des entreprises qui ont un certain nombre d'empreintes géographiques, beaucoup de sites industriels. Donc là, ce qu'on va faire, c'est discuter avec l'entreprise pour les aider à comprendre, finalement, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, quel est son impact environnemental et l'accompagner dans sa décarbonisation. Par exemple, faire une feuille de route. Aujourd'hui, j'ai 64 millions de tonnes de CO2. Comment je décarbonise à 50 millions de tonnes de CO2? Quelles sont les options? Et bien sûr, il y a des options de Schneider, puisque c'est notre métier de développer différentes options pour décarboner, à la fois via l'électrification ou l'efficacité énergétique ou la digitalisation.
Je vais le dire aux éditeurs, parce que peu de personnes le savent, mais je crois que tu es à l'origine de la réforme du système électrique européen. Et finalement, de la remontée du prix du carbone à l'époque, c'est Gérard Mestrallet, lui aussi, qui m'a expliqué tout ça, avec une illustration très forte de ta capacité de travailler rapidement, puisqu'il le relate dans un des écrits à ton sujet, où tu devais finalement trouver une solution sous 15 jours à remettre un chef d'État européen. Et puis, Gérard Mestrallet t'a donné une semaine, et finalement, quand il a pris l'avion, 2 heures après, c'était déjà prêt.
Effectivement, c'était sur la réforme du marché du carbone européen. Je dirais pas que j'ai toutes les idées toutes seules, là encore. On voit bien que, finalement, à ce moment-là, le marché du carbone s'était effondré. Il était à 2 euros la tonne de CO2. Et on voit bien que c'est un élément fondamental si on veut déclencher la transition énergétique. Comment le réformer? Il y a plein de manières. On l'augmente artificiellement ou on l'augmente un peu plus progressivement et on en fait un semi-marché, on va dire. Il y avait plein d'idées qui fusaient un petit peu partout. Il suffisait de les organiser pour faire en sorte qu'elles soient compréhensibles. Parce que souvent, la vraie difficulté, c'est de rendre quelque chose de très compliqué en compréhensible. Moi, c'est ce que j'ai fait dans ce cas-là précis. Et puis finalement, ça a retenu l'attention de plusieurs CEO d'entreprises énergétiques. Et puis, on a créé une coalition de CEO d'entreprises énergétiques qui ont trouvé l'idée bonne et qui l'ont reprise. Donc finalement, le vrai boulot, c'était à eux de le faire, porter finalement la proposition et faire en sorte qu'elle soit adoptée, ce qui a été fait.
J'ai souhaité reprendre cette anecdote parce que je pense qu'elle illustre parfaitement la question précédente que je te posais sur la manière de pouvoir aller chercher les bonnes idées, de les ramener et de les retranscrire et de leur permettre finalement de vivre de manière différente. Et je crois que c'est le rôle qu'il tient aujourd'hui de manière extrêmement forte sur la transition énergétique, sur le développement durable. On a besoin aujourd'hui de gens qui sont en capacité, comme toi, d'expliquer parfois des choses compliquées de manière très simple. Et c'est ce que tu fais. En tout cas, merci pour cette belle explication. Mais par rapport à tous ces sujets, la confiance pour toi, la confiance dans tes équipes, la confiance dans tes proches, La confiance en toi, c'est quoi? C'est d'abord une confiance dans les autres qui te permet d'avancer?
Je dirais, j'accorde ma confiance, que je pense que c'est l'élément essentiel, la brique essentielle pour embarquer une équipe. Je te disais tout à l'heure, pour moi, c'est très important de responsabiliser mes équipes. Mais responsabiliser sans donner confiance, finalement, ça fonctionne pas. Donc, pour moi, ce sont deux choses qui vont de pair. C'est donner ma confiance à mes équipes pour leur laisser libre choix de définir, finalement, la meilleure façon d'opérer. Bien sûr, elles vont me demander parfois, est-ce la bonne direction? Est-ce que je peux les accompagner, etc. Et je serai toujours là. Mais donner ma confiance, c'est la première des choses. Bien sûr, à la fin, ça signifie aussi savoir apporter. Enfin, la confiance, elle va de pair avec des propositions de leur côté et puis faire en sorte d'être transparent. Mais je pense que plus on agit de cette façon, plus on impulse le même type de réaction de notre côté.
Il faut savoir sortir aussi dans ce cadre-là d'une forme de sécurité intérieure. Alors, on peut le faire de différentes manières. On peut le faire en, en sortant de son environnement quotidien, parce que on se met un petit peu en danger et ça stimule. On peut nouer des relations avec des gens inspirants, des gens différents. On peut choisir des mentors, des amis qui finalement te grandissent, te réveillent, te révèlent. Quand Gérard Mestrallet, toujours lui, dit « Je ne sais pas si c'est ma petite sœur ou ma grande fille », est-ce que Gérard Mestrallet est un mentor ? Est-ce que tu as des mentors qui, aujourd'hui, te permettent finalement d'être sur des fondations solides et de dire « Eh bien, quand j'ai un sujet, j'échange avec eux et ça me fait monter ».
Je pense qu'il faut, en tout cas de mon côté, ce qui est important, c'est de ne pas avoir peur de la contradiction. Comme je te le disais tout à l'heure, non seulement j'ai pas réponse à tout, mais j'ai besoin aussi d'être challengée. Et donc ça peut avoir lieu à travers des mentors, on parlait de Gérard Mestrallet par exemple, mais pas que, ça peut être aussi auprès de certains de mes collaborateurs ou d'autres collaborateurs, mais qui se sentent suffisamment en confiance pour me challenger. Et ça, c'est très important. Je me sens pas à l'aise d'être dans un environnement où tout le monde est d'accord sur tout. Ça veut dire qu'il y a trop de non-dits, ça veut dire que, ou sinon ça veut dire que l'équipe est trop homogène. La diversité de pensée, la diversité dans les expériences, c'est ce qui apporte de la richesse. Et donc moi, ma façon de voir, c'est de grandir à travers la diversité et le challenge que vont m'apporter mes équipes ou des mentors ou des personnes proches.
L'intuition, c'est quoi pour toi ? Est-ce que ça t'amène une forme de liberté finalement, de liberté personnelle, de liberté dans ton management, de liberté dans la capacité là aussi de dire « je sens que les choses sont bien, on va suivre cette piste et on va aller jusqu'au bout ou pas ». T'es jusqu'au boutiste ou pas ?
Je dirais que je suis une femme d'intuition, ça c'est sûr. Néanmoins, comme je suis aussi très scientifique, j'admets que l'ambition puisse être parfois contrecarré ou challengé par des faits et auquel cas je me rangerai à l'idée ou aux faits qui seront apportés. Donc je dirais pas que je suis jusqu'au boutiste, ça veut pas dire que j'ai pas d'intuition, au contraire, je pense que je suis quelqu'un d'assez intuitif et c'est ce qui me donne aussi parfois des idées ou des volontés d'aller dans une direction qui n'était pas nécessairement celle qu'on avait tous établie. Et pour autant, dans le chemin, puisque dans toute intuition, mais il y a forcément un chemin, eh bien on peut toujours apporter des éléments nouveaux et je les écoute.
Et comment est-ce que tu distingues finalement l'urgent de l'important ?
Je dirais, dans un premier temps, pour moi, l'important n'est pas nécessairement le court terme. L'important, et c'est ce qui va finalement apporter de la différence ou qui va permettre de se différencier à long terme, qui va faire en sorte qu'on repositionne mieux l'entreprise, qu'on arrive à avancer plus fort que ce qu'on ne faisait par le passé. Parfois, c'est des petites étapes à court terme qu'il faut réussir vite. Donc là, l'urgence est de mise. Et parfois, c'est des efforts de plus long terme. Quand on parle de recherche et développement, par exemple, en fait, on peut avoir une réussite immédiate comme on peut avoir une réussite pendant 10 ans. Là, on vient de sortir l'un de nos nouveaux produits qui est basé sans un gaz qui s'appelle le SF6. Il nous a fallu 10 ans de développement. Ce que je veux dire, c'est que l'important peut être une conjugaison à la fois d'urgence, mais aussi de long terme. Et c'est toute la difficulté d'être un dirigeant, c'est de pouvoir articuler dans des pas de temps qui sont complètement différents tout en gardant le même cap.
Et si je rajoute à l'urgence et à l'importance le changement, c'est quoi le changement pour toi ?
Le changement, c'est ce qui permet d'avancer. Rester sur une situation acquise n'apporte pas grand-chose. On pourrait dire que Schneider est très bien positionné. Aujourd'hui, entreprise qui vaut 93 milliards de capitalisation boursière, deuxième plus grand groupe industriel du CAC 40, hormis le luxe. Donc positionnement extrêmement positif, résultat d'un grand courage qui a été entrepris par les équipes dirigeantes. Et pour autant, est-ce qu'il faut s'asseoir ? Le changement, c'est quelque chose qui va extrêmement vite dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, pour moi, l'important, c'est toujours sentir les signaux faibles. On parlait d'intuition tout à l'heure, les signaux faibles, c'est aussi ça. C'est de savoir les détecter, savoir les isoler et à partir de là, les disséquer pour comprendre finalement qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour l'entreprise et à partir de là, ne pas avoir peur du changement, mais plutôt l'anticiper. Donc le changement, je dirais, c'est positif parce que ça nous permet toujours de nous remettre en question et de ne pas rester sur des acquis, mais au contraire de pouvoir devancer par l'intuition les signaux faibles.
Oui, je l'ai vu dans ma carrière, qu'elle soit médicale ou politique, dans le changement, il y a toujours une résistance. Il y a une résistance externe, celle de nos interlocuteurs, et une résistance interne, la nôtre, celle qui nous appartient, qui est souvent liée parfois à la peur, à des doutes. Et est-ce que toi, c'est des choses que tu connais, que tu ressens au quotidien ?
C'est normal, on est beaucoup plus à l'aise par ce qu'on connaît que ce qu'on ne connaît pas. Donc le changement par nature fait peur. Et pour autant, en fait, notre rôle, c'est d'apporter, je dirais, les clés de lecture pour donner du sens au changement. Il ne faut pas changer pour n'importe quelle raison, il ne faut pas changer à tout bout de champ. Il faut changer, en tout cas, il faut prendre des tournants de changement quand c'est nécessaire et que ça apporte quelque chose d'important pour une entreprise, pour une équipe, etc. Donc pour moi, c'est plutôt accompagner le changement par le sens.
Justement, ce sens, comment est-ce que tu as dit que tu écoutais beaucoup, que tu travaillais beaucoup avec ton équipe, mais indiquer la direction, indiquer le sens et s'y tenir, est-ce que c'est quelque chose de simple ou comment est-ce que tu bordes cela au quotidien ? Est-ce que tu revois ton équipe, c'est du step by step, c'est progressif ou voilà la direction, le point à obtenir c'est celui-ci et il faut qu'on y aille ?
Je dirais c'est ambitieux de se dire qu'il y a une seule direction et que c'est le point à tenir pour les années qui viennent. Bien sûr, on peut avoir une direction globale comme celle d'être la plus belle entreprise engagée dans le développement durable, mais après le diable se cache dans les détails, bien évidemment. Surtout dans un monde où en fait les priorités elles évoluent dans un pas de temps extra rapide. Par exemple, le Covid, puis ensuite la guerre en Ukraine, puis ensuite, etc. En fait, toutes les priorités des entreprises évoluent dans des pas de temps de plus en plus courts. Et pour moi, ce qui est important, je pense, c'est de toujours garder un cap. Et parfois, ça nécessite aussi de se réajuster, parce que le monde est différent. Je te donne un exemple. Par exemple, en Europe, il y a 2-3 ans, on était très en avance sur le développement durable. Tout le monde en parlait, par rapport aux Américains. Très bon positionnement. Puis avec la guerre en Ukraine, finalement, le sujet de développement durable a été dépassé par le sujet finalement de la crise énergétique. Comment est-ce qu'on paye les factures ? Comment est-ce qu'on arrive à finalement passer l'hiver sans couper les robinets, on va dire ? Finalement, mon rôle, c'est plutôt de garder l'adéquation entre les deux. Bien sûr que le sujet de la facture énergétique devient prédominant, et pour autant, faut-il abandonner le développement durable ? Non, il y a des solutions qui résolvent les deux sujets en même temps. Alors, je dirais... C'est un petit peu ça, c'est garder le cap tout en s'adaptant à notre environnement qui est un environnement qui va évoluer et qui évolue déjà à une vitesse extrêmement rapide.
Je te sais très sensible justement à ce dernier sujet et surtout au message que l'on peut adresser à la jeunesse. Comment aujourd'hui comprendre les aspirations de la jeunesse ? Comment, quand on est une entreprise aussi technologique que Schneider, expliquer son rôle ? Comment est-ce que vous confrontez votre propre expérience, vos intuitions dont on parlait tout à l'heure, à cette pression sociale exercée aujourd'hui par les jeunes et les moins jeunes sur le développement durable, sur les énergies renouvelables, sur la technologie, sur parfois le refus justement de l'innovation pour revenir à des choses plus simples, plus compréhensibles par le commun des mortels. Comment est-ce que tu vis, toi, ce rapport aux jeunes et cette nécessité pour une entreprise comme la tienne, pour toi en tant que leader, eh bien, d'échanger directement avec eux ?
Oui, c'est une très bonne question. On est Schneider est très bien perçu comme entreprise très bien positionnée sur le développement durable. Bien évidemment, c'est l'un des éléments phares quand un jeune rejoint l'entreprise. Et donc, on peut en être fier. C'est un facteur très différenciant. Et pour autant, ce qu'on se rend compte, c'est que dans nos métiers, il y a une pénurie finalement de jeunes dans ces activités, à la fois électricité, à la fois digitalisation, à la fois énergie renouvelable. Alors moi, ce qu'on essaye de faire avec l'équipe, finalement, c'est de développer l'employabilité, de travailler avec les écoles, de développer plus de cursus. Et on s'est fixé un objectif, 1 million de jeunes qui seraient formés à tous ces métiers-là à l'horizon 2025. Bien sûr, encore une fois, on a une ligne de mire à l'horizon qui est le développement durable et puis des petites étapes pour donner confiance et pour avancer ensemble. La petite étape non des moindres, eh bien finalement, c'est 1 million de jeunes formés à ces métiers à l'horizon 2025. Ce qui permet d'une part de confronter nos idées, de voir comment finalement les jeunes aspirent à ces nouveaux métiers, et puis de la même façon leur apporter toutes les cordes à leurs arcs pour évoluer dans un monde qui ne fait que grandir puisque le développement durable va passer par l'électrification et la digitalisation.
Et comment est-ce que tu réagis quand même, toi qui es issu de grandes écoles, à ces promotions qui, le jour de la remise de leur diplôme, viennent contester finalement ce qu'ils ont appris, ce pour quoi on les a formés, en disant nous allons aller dans une autre direction.
Je dirais, chaque homme et chaque femme est libre de son parcours. La plus grande difficulté, c'est de ne pas savoir s'écouter. Moi d'ailleurs, j'ai douté à un moment donné dans mon parcours, est-ce que j'étais vraiment faite pour les sciences ? La vraie difficulté, c'est de ne pas porter un regard objectif sur finalement ce qui fait le sens pour soi-même, ce sur quoi on est vraiment volontaire en termes d'aspiration. Et parfois, les jeunes peuvent aller dans une direction parce que c'est celle qui a été tracée pour eux. Finalement, est-ce que c'est ça le bon chemin ? Peut-être c'est bon pour l'environnement dans lequel le jeune évolue. Au final, s'il s'agit de se rebeller pour aller dans une autre direction mais qui fait plus de sens pour lui, pour moi, il n'y a pas de sujet.
Tu parles de rébellion. Cet été, on a connu en France une rébellion quand même extrêmement forte. Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène ?
Je n'irai pas sur ce terrain-là. Je pense que il faut aujourd'hui dans le monde dans lequel on évolue, il y a de plus en plus de tensions, quelles qu'elles soient. On parle des jeunes, mais on parle aussi des États. On parlait des États-Unis versus l'Union européenne, etc. On va vers une fragmentation à plein de niveaux, à plein d'échelons sociaux, et c'est ce qui fait un petit peu la crainte de l'avenir du monde de demain. Et je pense que les rôles des entreprises, c'est aussi d'arriver à créer des liens entre à la fois des États, ou des liens au niveau des territoires, ou des liens auprès de personnes en précarité. C'est ce qu'on fait aussi au niveau de Schneider. Et je pense qu'on a un rôle moteur dans les territoires, parce qu'on est agent de territoire, parce qu'on développe les emplois dans les territoires. Mon idée, c'est que c'est pas une fatalité, mais au contraire, comment on arrive à finalement utiliser toutes les arcanes des grandes entreprises pour aussi donner du sens au monde dans lequel on évolue, qui est un peu plus radical que ce qu'on a connu par le passé et qui doit se rassembler.
Cette confiance, elle est souvent battue un peu en brèche par les réseaux sociaux. Je sais que tu es extrêmement attentif aussi à cette manière de communiquer. Tu vis cela comment ? Tu les consultes tous les jours ? Tu communiques beaucoup ? Quel est ton sentiment par rapport à cela ? Quel est ton jugement finalement par rapport aux réseaux sociaux ?
Je trouve que les réseaux sociaux ont pris trop d'ampleur dans la vie quotidienne aujourd'hui. On communique à tort et à travers dans l'instantanéité, plus que dans le recul de soi, dans le recul des choses, dans le recul de ce qu'on vit. Moi, je participe très peu aux réseaux sociaux. Alors, j'ai une équipe qui organise sur LinkedIn et Twitter, mais rien d'autre. Et puis, de manière très, très focalisée sur des thématiques où on va donner du sens, où on va partager ce qu'on fait, où on va attirer des talents, où on va communiquer sur des bonnes pratiques, etc. Mais pas dans l'instantanéité, pas dans la confusion d'un moment précis, pas pour attiser, on va dire, des réactions extrêmes, mais vraiment pour communiquer sur des choses positives et puis des bonnes pratiques et puis attirer les gens vers ce qu'on fait.
Si à l'issue de ce podcast, des auditeurs veulent te joindre, ils peuvent te joindre sur quel réseau ? Et tu réponds toi directement ou pas ? T'as le droit de dire non, hein.
Voilà, ça peut être sur LinkedIn ou Twitter. Je ne suis sur aucun autre réseau.
D'accord, ça a le mérite d'être clair. D'accord, voilà. Bien, parfait. Si tu avais quelque chose à refaire dans ta vie, qu'est-ce que tu referais ?
Je ne me suis jamais posé cette question et je n'ai même pas envie de me la poser parce que je considère que ce que la vie m'a offert est déjà très belle. Bien sûr, c'est aussi des décisions que j'ai pu prendre, mais j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Je dirais juste, si je peux communiquer plus encore pour donner l'envie à d'autres de s'écouter et puis d'aller chercher au fond de soi pour faire de leur vie ce qu'ils ont vraiment envie, j'aurais un petit peu aidé dans ce monde un peu difficile.
Et dans ce cadre-là, entre bien vivre et mieux vivre, tu choisis quoi ?
Bien vivre.
Bien vivre. Mieux vivre, c'est pas une notion de progrès, d'accélération. Si, mais
bien vivre, c'est déjà ce qu'on vit au quotidien. Déjà, juste porter un regard sur ce qu'on fait et ce qu'on vit au quotidien, et pas être dans la négation du positif, de l'environnement positif dans lequel on vit.
Et comment est-ce que tu restes aligné finalement entre ce que tu as dans les tripes, ce que tu as dans le cœur et ce que tu as dans ton esprit ?
Je pense que l'alignement pour moi est absolument essentiel, sinon je n'arriverai pas à communiquer, j'arriverai pas à partager. Si je suis chez Schneider, c'est parce que la mission de Schneider, elle est alignée avec mes valeurs. Elle est très orientée dans le développement durable, on en a parlé. Mais c'est pas une affaire de quelques années, en fait. Le virage, il a été pris il y a 15 ans. Donc, elle est très, très, c'est une entreprise qui est très imprégnée par cette culture. Et donc, ce que j'y fais, en fait, c'est aligner avec mes valeurs, avec ce que mon cœur porte, avec ce que mon esprit a envie de développer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas de mal à défendre ces sujets, j'ai pas de mal à en parler avec enthousiasme. Et travailler dans un autre environnement où ça serait pas le cas, ça ne serait pas possible.
On s'était rencontrés pour la première fois, je le disais tout à l'heure, à Royaumont, aux entretiens de Royaumont. Et nous étions sur la même tribune avec, je crois, quelqu'un que tu adores aussi, Bertrand Piccard, qui a beaucoup de recul par rapport à la vie et beaucoup de philosophie par rapport à la vie, mais qui est aussi extrêmement actif, entre autres sur le développement durable. C'est un de ceux qui parle également aux puissants de ce monde, puisqu'il est invité au G7, au G20. Nous intervenions à l'époque sur la méritocratie. Tu te souviens de ce que tu y as dit?
Oui, je me souviens, le sujet m'avait plu parce que on est dans un environnement en France où on raisonne beaucoup à travers les diplômes ou ce qu'on en a fait à l'âge de 18 ans. Et finalement, est-ce que la vie se résume à ça? En fait, on voit bien que dans une entreprise comme Schneider, où Jean-Pascal a évolué de manière absolument brillantissime, c'est ça qui compte, c'est la méritocratie, c'est l'envie de faire différemment, c'est l'envie de positionner l'entreprise de manière différente. Eh bien, finalement, tout le monde a sa chance, c'est pas nécessairement une raison. En tout cas, je pense que ce qu'on va faire à 40 ans ne doit pas dépendre d'un diplôme qu'on a eu à 18 ans.
J'ai une question, moi, qui me paraît essentielle quand je t'entends, quand je t'écoute, quand j'apprends à te connaître. La joie, est-ce que tu as des moments de création de joie toute simple, en dehors de tes enfants, en dehors de ta famille? Est-ce que c'est écrire? Est-ce que c'est cuisiner? Tu vas me dire jouer du violon? Est-ce que c'est courir? Finalement, comment est-ce que tu te fais plaisir, tranquillement, simplement, en disant... Là, je suis bien, je suis joyeuse. En dehors de ton boulot, tu n'as pas le droit de parler boulot.
D'accord. Je dirais la joie, c'est la joie de vivre, c'est de passer un moment juste simple en complicité avec mes amis, en complicité avec mes parents, en complicité avec mes enfants. Pour moi, je donne beaucoup d'espace, on va dire, à la relation que je crée avec mes proches et c'est ce qui me ressource. Donc d'un côté, on parlait du travail tout à l'heure, mais le ressourcement et la joie de vivre, elle vient aussi beaucoup du rapport que j'ai avec mes proches. Et puis, on est très fort liés ensemble. Quand mes enfants m'offrent pour la fête des mères un petit pot de confiture, qui sont les petits pots de confiture de mots d'amour, ben voilà, la messe est dite et pour moi, c'est le plus beau cadeau que je puisse avoir et ça me remplit de joie.
Et tu parles de l'amitié, tu viens de parler de ta famille avec beaucoup d'émotion et beaucoup de plaisir. L'amitié, c'est effectivement d'avoir du temps, prendre de la disponibilité pour ses amis, c'est donner sa confiance, on en a parlé tous les deux, c'est être capable simplement de passer des moments ensemble, de rire, de savoir écouter, de se savoir écouter aussi. C'est aussi avoir l'audace de dire le vrai, parfois avec pudeur, et tout n'est pas toujours bon à dire, mais parfois c'est indispensable dans l'amitié. C'est comme ça que tu la juges, que tu as autour de toi des gens qui te sont proches et finalement c'est ta petite intimité, mais elle est absolument nécessaire parce que tu as besoin de moments de respiration dans la vie intense que tu mènes.
Exactement. Tu as vu juste. Les amis, pour moi, ne doivent pas être, ne sont pas des gens qui sont équivalent à ce que je suis. J'ai tissé des liens d'amitié avec des gens qui sont souvent très différents de moi, mais qui du coup m'apportent des regards différents et qui ont un partage de valeurs avec moi extrêmement fort. Et quand je dis des regards différents, c'est important pour moi parce que finalement je grandis à travers eux, je grandis dans la relation parce qu'on vient d'horizons différents, parce qu'on a des expériences différentes, parce qu'on pense différemment et qu'on s'écoute. Et pour moi, c'est très fort de savoir s'écouter et d'apprendre à travers les autres. Donc oui, ces moments, ils sont forts. Et dans ces moments-là, on est juste ce qu'on est au fond de soi. Il n'y a pas d'armure, il n'y a rien en fait. On est juste tel qu'on est. Et c'est des moments particulièrement précieux de la vie.
Merci Gwenaëlle, merci pour ce moment de partage, d'écoute, et je crois que tu étais fidèle à toi-même, tel que tu es, et j'espère en tout cas que les auditrices et les auditeurs auront été sensibles à tes mots, à tes paroles, et auront surtout découvert quelqu'un qui est une très très belle personne. Merci à toi.
Merci Jean, merci pour tout.
Cet épisode vous a plu, merci beaucoup. N'hésitez donc pas à le partager, à en parler autour de vous. Merci également de noter 5 étoiles. Vous pouvez réagir directement également sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou Facebook et sur mon site internet jeanrotner.com. À très bientôt.